Bienvenue sur le podcast Maman Sereine de Mouvement Épanouissement. Je suis Charlène Lepage, professionnelle de la santé et de la relation d'aide. Bachelière en kinésiologie, thérapeute et animatrice certifiée de la méthode Écoute ton corps, j'inspire les femmes et les mères à s'épanouir simplement et naturellement grâce aux saines habitudes de vie et à l'attitude sereine. Si tu veux recevoir chaque nouvel épisode directement par courriel, abonne-toi gratuitement en visitant le www.mouvementepanouissement.com/podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis tellement heureuse aujourd'hui de faire le pont avec le grand concept qu'on a élaboré à travers le stress. J'ai adoré parler de stress du point de vue de l'adaptation, à quel point que le stress, c'est naturel et c'est bénéfique. C'est un messager pour nous dire qu'on a des nouveautés sur lesquelles on va devoir peut-être se préparer, s'adapter pour évoluer. Hein. Le stress est un mécanisme d'adaptation, de survie, mais aussi d'épanouissement. Et quoi d'autre que plus intense comme nouveauté, comme stress, comme adaptation, qui est celui de devenir maman. Depuis que je suis devenue maman, ça vient dès le moment que tu sais que tu es enceinte, ça vient avec des adaptations, des nouveautés, de l'inconnu qui génère du stress pour nous donner de l'énergie et mobiliser nos ressources à nous adapter, à développer peut-être même de l'aide ou des connaissances pour pouvoir faire face à toute cette montagne de nouveautés qui est d'accueillir un nouveau bébé dans notre vie et de devenir maman. Tout le concept d'adaptation, de nouveauté de la femme qui devient maman porte un nom et ce beau nom est la matrescence. Je veux en parler aujourd'hui avec une invitée que j'ai eu le bonheur de découvrir en même temps que vous à travers l'épisode parce que Vanessa est travailleuse sociale en périnatalité. Elle est aussi doula, entrepreneur et elle va déconstruire toutes les formes de tabous qui existent entourant la maternité. Et ce, avec son approche, oui, de travailleuse sociale, mais aussi son approche humaine, vraiment liée à sa bienveillance, son écoute. Et c'est comme ça qu'on me l'a référé et j'ai pu aller baigner dans son univers et constater à quel point c'était de cette façon-là, avec cette signature que je voulais qu'on apporte, la matrescence. Alors, sans plus tarder, Vanessa, bonjour!
Allô! Ça me fait vraiment plaisir d'être là.
Merci de, premièrement, ton travail, de ton côté, hein, d'accompagner les femmes dans cette grande transition. Merci d'être un soutien pour toutes les mamans et les familles, finalement.
Ben, c'est tellement important, là. Puis la périnatalité, c'est malheureusement une grande oubliée parfois, là, mais c'est tellement important, là.
Ah, oui, puis on va en parler aujourd'hui, puis on va rentrer dans la matrescence, mais avant tout, est-ce qu'on peut mettre sur table, une fois pour toutes, parce qu'il y en a qui ne savent pas encore qu'est-ce que c'est la matrescence, qu'est-ce que le mot, la signification, hein, la fusion des deux mots matrescence, les deux mots qui forment le mot matrescence et son origine, parce qu'on en avait discuté un petit peu ensemble, mais c'est pas si récent. Hein. Nous, on pense que c'est nouveau, mais ça existe depuis déjà un bout de temps. Donc, quelle est la définition et son origine?
En fait, la matrescence, là, c'est un mélange de deux mots, là, fait que c'est-à-dire la maternité et l'adolescence. Fait qu'on on a combiné ces deux-là, matrescence, qui a formé ce mot-là. Le mot là, est apparu, là, écoute, dans les études que j'ai trouvées là, les plus vieilles en lien avec ce terme-là, là, ça remonte quand même dans les années à peu près 80. Là. Fait que tu sais, on parle beaucoup, beaucoup plus de matrescence depuis quelques années, mais tu sais, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années là, que ce terme-là est développé là, quand même. Peut-être pas à son plein potentiel là, depuis les années 80 quand même, là, tu sais, je veux dire, on était ailleurs, mais quand même, ça a évolué depuis ce temps-là, puis on avait déjà ce mot-là. Mais c'est ça, tu sais, la matrescence, en fait, en gros, c'est le devenir maman. Donc, tout le changement d'identité, en fait, que ça comporte, parce que, moi, j'aime bien l'illustrer comme ça, puis en tant que travailleuse sociale, c'est sûr que comme ça fit un peu, mais c'est un nouveau rôle social qu'on vit, en fait, là. C'est l'arrivée d'un nouveau rôle social dans notre vie, et tout ce déséquilibre et rééquilibre-là, en fait, en lien avec cette arrivée-là, tu sais. J'aime bien un peu l'illustrer comme ça, là, tu sais, c'est... Je veux dire, si c'était un invité, on le trouverait un peu mal poli, là, parce que comme il vient prendre toute la place, il arrive, lui, comme un cheveu sur la soupe, puis comme il prend toute la place, là, tu sais, puis après ça, on est comme wow, attends une minute, là, on va te redonner une place qui a du bon sens, là, mais comme au début, puis là, quand je dis au début, là, tu sais, en fait, la matrescence, là, on la définit environ là, de 0 à 2-3 ans de vie, là. Fait que. C'est quand même là, c'est une bonne c'est un bon moment d'adaptation là. Ouais, c'est à peu près ça le concept en gros de matrescence, mais là c'est sûr qu'on va embarquer dans toutes les petites subtilités là, un peu plus aujourd'hui là.
Ouais, parce que tu sais, j'avais beau, moi j'ai entendu parler de la matrescence avant même, tu sais, au début de ma grossesse, avant même d'accoucher, puis je me suis dit, OK, il y a vraiment une transformation, puis j'avais adoré la jonction des deux mots parce qu'on sait tous à l'adolescence le niveau de perturbation au niveau hormonal, tu sais, la formation de l'identité, de la personnalité. Je me rappelle encore, j'étais en secondaire 2, puis je me suis dit, qui je veux être dans la vie? Tu sais, c'est qui Charlène va devenir? Je savais que j'avais le pouvoir de choisir ce que je voulais être, tu sais, au niveau professionnel. C'est que tu choisis les spécialisations de cours au secondaire pour qui va guider pour ton sujet, puis qui va te guider pour l'université, qui va te guider pour ta carrière de vie. Et là, je me rappelais l'espèce d'angoisse, ou pas l'angoisse, mais tu sais, wow, une espèce de. On voit l'immensité de la vague qui arrive, puis se dire, OK, ben, il y a l'inconnu, puis comment je vais me former? En plus que ton corps est boosté hormonalement, les seins gonflent avec les glandes, il y a l'acné, tu es plus fatigué, tu te sens plus irritable, et vraiment, tu commences souvent à travailler en même temps, donc tu prends un contrôle. Il y a comme plein de dimensions de ta personne qui se transforme à l'adolescence, et de faire le parallèle avec la maternité, parce que c'est la même intensité de perturbation qu'on va pouvoir vivre dans tellement plein en même temps, c'est pas juste un domaine de notre vie qui se transforme. Ton couple devient parent, ça c'est le premier domaine. Toi, en tant que femme, ton corps change. Ta façon de penser, moi je me suis vue dans les traits de caractéristiques de ma personnalité qui sont transformés. Je me suis vue devenir agressive, qui est une nouvelle facette que j'avais pas vue de moi, mais une agressivité succulente, là. C'est pour protéger mon bébé, puis hein, j'avais beaucoup moins de patience envers certains éléments, là. Je me sentais très facilement sur la défensive pour protéger mon petit univers, mon petit bébé. Et là, par exemple, les becs sur mon nouveau-né à quelques jours de vie, oh, je sentais l'agressivité monter, mais encore là, elle avait un sens, mais c'était encore une adaptation à gérer, voir, hey, j'ai des nouvelles émotions, des nouvelles réactions, j'ai un nouveau statut, je ne travaillerai pas pendant un an, l'argent va diminuer à mon compte de banque aussi, ça apporte un autre stress, il y a tellement d'adaptation, je me suis dit, c'est exactement une deuxième adolescence. Mais dans la vie adulte, avec à temps plein un enfant à t'occuper, à subvenir à ses besoins. Donc, comme tu dis, j'adore ton image de l'invité un peu qui nous dérange parce que c'est vrai qu'il va écraser toutes les autres sphères de notre vie et qu'il va prendre 94,8% de notre univers pendant plusieurs mois. Et tranquillement, il va gagner en autonomie, mais ça reste que dans les premières années. Je suis rassurée aussi de savoir que ça va jusqu'à 2 ans. Parce que moi, je me suis dit, hey, là, moi, ma fille est rendue à 7 mois, je suis encore dans la matrescence parce que je ressentais encore les effets et là, ça me confirme que, bien sûr, hein.
Ah ouais. Puis tu sais, j'ai envie de rebondir un petit peu sur ton parallèle là, tu sais, avec la crise d'adolescence, par exemple, là, tu sais, puis tout, puis tu sais, finalement, quand on l'aborde avec bienveillance, tu sais, cette adolescence-là, cette adolescente-là, tu sais, qui est en pleine crise identitaire, qui, tu sais, qui se cherche, ben, tu sais, je pense qu'il faut rappeler aussi que comme il y a un éventail de choix, puis que tu as le droit de te tromper, puis que tu as le droit de comme prendre des directions, puis finalement te rendre compte que, ben, sais-tu quoi, c'était pas ça finalement. Je vais changer d'idée, tu sais. Fait que j'ai envie de dire que c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton, ça bouge avec le temps, puis c'est normal qu'une journée, je suis comme, hey, sais-tu quoi, ça, c'est vraiment ça, puis l'autre journée, hey, non, c'est plus du tout ça, puis c'est tellement correct, là, tu sais.
Oh, ça la pèse, hein, parce que c'est vrai que l'angoisse de dire, OK, ben là, je suis en train de construire les fondations d'une mère et d'une famille, puis on a l'impression que si on ne fait pas telle routine dodo, on va scraper, mon Dieu, la nuit de toutes les prochaines nuits à venir, puis le sommeil de notre enfant, puis si on allait ou on n'allait pas, si on fait du cododo ou pas. Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais choisi, en fait, Le cododo nous a choisi parce que c'est la seule façon qu'on pouvait dormir initialement. Et je me rappelle m'avoir senti tellement mal. Je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, ça, c'est vraiment pas correct. Finalement, de me rendre compte que dans d'autres pays, on le fait, puis ça va, peut relativiser les choses. Mais on a tellement de choix à prendre, ne serait-ce que la façon qu'on nourrit notre bébé, qu'on l'endort et qu'on interagit avec lui au quotidien, ou encore hein, le choix de revenir au travail, rentrer à la garderie, peut-être même à 6 mois au lieu d'un an ou 2 ans. Et là, il y a plein de choix. Puis on se dit, comment je fais pour faire les meilleurs choix? Et le stress qui vient, hein, c'est la peur de finalement tout détruire et de faire les mauvais choix. Mais là, tu nous apaises en disant, hey, on a le droit de faire des choix. Et en regardant les conséquences, les résultats, ben, on peut aussi se réajuster. On n'est pas coulé dans le béton. Ça l'apaise aussi l'intensité de la charge un peu mentale de choisir les meilleures options tout en partant.
Ben, mais, hein, tu sais, puis on peut pas, là, ça, on le dit comme tellement souvent, mais à quel point un bébé, ça vient pas avec un manuel d'instruction, tu sais. Donc, y a aussi le fait de devenir maman, ça vient pas avec un manuel d'instruction, puis chacune va le voir à sa façon, tu sais, mais en effet, il y a le réajustement qui est possible, tu sais, puis je pense qu'on va en parler beaucoup au cours de l'épisode, mais l'autocompassion, l'écoute de soi, tu sais, par rapport à cette matrescence-là, elle est tellement importante, comme on va dire à un adolescent, de s'écouter puis de faire des choix pour l'instant, puis que, ben, s'il se rend compte que c'est pas ça, ben, c'est pas ça, tu sais, puis on change, on ajuste, tu sais, mais c'est normal, puis en fait, c'est un équilibre à trouver, tu sais, puis cet équilibre-là à trouver, il va durer toute notre vie, tu sais, c'est ça le but, tu sais. Donc, c'est comme normal que. Ben, il y a des fois où est-ce qu'on se sent un peu plus en déséquilibre, puis à un moment donné, hop, je reviens sur mon X, puis hop, ça va bien, puis à un moment donné, hop, un autre petit déséquilibre, puis et ça revient, mais tu sais, c'est complètement normal, là, tout ça, là.
Ben, j'aime la boussole que tu nous apportes de dire, ben, on s'écoute, puis on se donne la compassion pour les choix qu'on fait, puis qu'on doit réajuster aux besoins. Mais c'est fou encore plus que jamais. Tu sais, j'ai toujours parlé de l'intuition, puis j'ai toujours suivi mon cœur, même si ça avait des conséquences vraiment intenses. Je suivais mon cœur parce que je savais que c'était comme ça que j'allais arriver au bon endroit, à mon endroit, à moi. Mais dans la tempête, parce que des fois, c'est vécu comme une tempête, la maternité, dans les soirs de tempête, parce que la mère était très agitée, de se dire, ben, en ce moment-là, il n'y a aucune visibilité. Je ne peux pas naviguer avec une map. La seule chose, la seule boussole que je peux me fier, c'est mon intuition, puis faire ce qui me paraît le mieux pour l'instant. Faire avec ce que moi, je ressens qui est le mieux. Et ça a été pour moi se donner le droit d'avoir une intuition maternelle, surtout à un premier enfant. On dirait qu'on a encore tendance à vouloir s'accrocher à ce que nos parents faisaient, ce que quel psychiatre recommande. Tu sais, on a tendance à vouloir aller s'accrocher un petit peu dans le naître et grandir au Québec, là, notre ouvrage référence, mais de se dire, ben là, la théorie s'écroule et dans le moment, dans l'instant T, là, qu'est-ce que mon intuition me dit de faire? Et ça a été un cadeau non seulement pour naviguer la maternité, mais aussi pour naviguer la matrescence au complet et le nouveau rôle de mère.
Ouais, puis tu sais, ce nouveau rôle de mère-là, tu sais, je trouve ça beau ce que t'apportes, puis à quel point comme on a tellement de j'ai juste l'expression anglaise, mais de guidelines, tu sais, de traces écrites par rapport au bébé, tu sais, dans le sens où, bon, il y a toutes les courbes de croissance, ton bébé devrait faire ça à tel âge, devrait manger à partir de tel âge, etc., etc. On n'a rien par rapport à maman, par rapport à elle, son soutien social, son soutien psychologique, on a comme rien, à part, on sait que, oh, il y a peut-être un baby blues, puis, ah, si tu vas moins bien, peut-être une dépression postpartum, tu sais, mais à part de ça, il y a comme rien, puis c'est hyper difficile de naviguer à travers tout ça, parce que là, finalement, t'as pas de repère, tu sais, par rapport à toi, t'es supposé te sentir comment, tu sais, puis on commence, tu sais, je vais un peu ailleurs, mais tu me ramèneras, Charlène,
Pardon,
si
vas-y.
jamais, mais tu sais, comme, jusqu'à un certain point, là, tu sais, on parle de l'attachement maman-bébé. On commence à en parler de plus en plus, mais à quel point ça se peut que ça se fasse pas d'un coup à la naissance de ton bébé, tu sais? Mais des choses comme ça, on en parle tellement peu, puis finalement, ça nous remet en question énormément parce qu'on est comme, ben, est-ce que je suis normale, tu sais? Est-ce que comme ce que je vis en ce moment, c'est normal? Ou je suis en train de virer folle? Ou je suis en train de, tu sais, comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais, avec tout ça? Fait que c'est quand même, tu sais, c'est très on va dire dans le jargon multidimensionnel quand même, là, la matrescence. Mais c'est fou à quel point on n'a pas de... On en parle tellement peu. Tout ce qu'on parle, c'est les courbes de croissance puis le percentile de ton bébé. Mais après ça, le comment tu te sens avec cette courbe de croissance-là qui est, selon le médecin, pas correct ou dans moyenne ou peu importe, tu sais. Donc, ça, on n'en parle pas, tu sais. On laisse les mamans aller, puis c'est tout, là.
C'est tellement vrai parce que la journée que tu sors de ton centre de naissance et que tu t'en vas, que ce soit l'hôpital ou la maison de naissance, ou chez toi, mais que tu arrives hein, toute seule avec ton bébé, la coquille, puis tu rentres dans la maison, puis t'es comme OK, on se regarde entre parents quand on a la chance d'avoir un parent partenaire avec nous. On se regarde puis on se dit OK, l'aventure commence. C'est le néant, là. Parce que même si avec un premier enfant, j'ai beaucoup parlé avec ma mère qui a 4 enfants, elle me dit, tu sais, tout ce que tu as vécu au premier, tu vas le revivre sensiblement au deuxième parce que les enfants sont tous différents. Donc, ce qui a fait que ma fille dormait ou qui était apaisée, ça va peut-être être complètement différent avec mon deuxième, tu sais. Je me disais, ben, c'est toujours rester, hein, de ne pas s'attacher aux guidelines, les lignes directrices ou même ce qu'on a appris avec le premier enfant, ne pas s'attacher à l'extérieur, au tangible, puis finalement, s'abandonner à être 100% dans la navigation intuitive, dans l'observation, dans l'écoute du bébé, puis de se permettre de regarder cette nouvelle dynamique-là en se donnant le mot d'ordre. Je pense vraiment, c'est de la compassion en route. Parce que, ben oui, on va faire des erreurs, puis ben oui, on n'arrivera pas. Puis comme tu dis, j'ai entendu parler des coliques au début hein, des premières semaines, premiers jours, premières semaines de vie, mais j'ai pas entendu parler de comment est-ce que les parents sont supposés de sentir à travers les coliques. Parce que j'avais juste toutes les choses à faire en cas de bébé qui pleure parce que peut-être qu'il a mal au ventre. Mais quand j'ai fait les 7 éléments de la liste, puis ça fonctionne toujours pas, est-ce qu'on peut parler de la détresse que les parents vont vivre quand ils vont se regarder puis ils vont dire clairement on n'est pas des bons parents, ça ne fonctionne pas. La petite fameuse danse puis les douillettes d'eau chaude là, ça fonctionne pas, on n'y arrive pas, sentiment d'échec par rapport à cette nouvelle identité. Et ça j'en avais parlé avec mon chum parce qu'il avait recommencé à travailler après 3 mois puis j'avais dit tu sais toi tu as encore une estime, une confiance qui peut s'étaler dans tes œufs sont dans différents paniers. Mais moi quand j'arrive pas à consoler ma fille, je veux juste te dire qu'en ce moment ma fille c'est ma vie jour et nuit. Donc si moindrement tu passes un mini commentaire ou quelqu'un passe un mini commentaire par rapport à que j'ai pas réussi à faire le bon choix ou que je fais pas la bonne chose, je veux juste vous dire que vous êtes en train de critiquer mon être entier, là. Charlène n'existe plus, je suis juste la maman de Clara pour l'instant, jour et nuit. Je sais que c'est temporaire, mais ça reste que c'est le cas. Et si je me sens pas vue, valorisée, accompagnée à travers mes mauvaises décisions parfois, là, j'apprends moi aussi. Mais si j'ai pas la compassion et le soutien des autres autour de moi ou de moi-même, évidemment, je suis plus sensible à ça parce que je n'ai pas mon estime encore professionnelle ou, tu sais, j'ai mon identité de femme athlétique, femme qui donne des cours de yoga, femme qui va travailler, femme qui a des coachings, tout ça, j'en ai plus, là. J'ai juste cela qui est mon être de rôle de maman. Donc, de là l'importance à une nouvelle identité qui est en construction, à accompagner les mamans, à les valoriser et les faire sentir que ben, elles sont des bonnes mamans. Puis moi, je l'ai dit depuis le début, la plus belle chose qu'on peut dire à une nouvelle maman, c'est que c'est une bonne maman et la meilleure maman pour son bébé. Parce que même si j'ai confiance en moi en général, cette phrase-là, à chaque fois qu'on me l'a dit, j'ai eu une larme qui a monté dans mes yeux, puis je me suis sentie bouleversée à l'intérieur par cette vague d'amour que j'avais finalement tant besoin, moi aussi.
Ouais, oh oui, tu sais, puis ça fait un super beau parallèle là, dans le sens où, tu sais, la matrescence, ça commence dès jour 1, hein. Dès jour 1, pas jour 1 que mon bébé naît, mais dès jour 1 que j'ai un test de grossesse positif, là, tu sais. Puis j'ai envie de dire, même avant ça, parfois, quand j'ai le désir ardent d'avoir un bébé, tu sais. Fait qu'il y a comme, ça commence dès ce moment-là. Puis, tu sais, finalement, ce qu'on sait, c'est que quand, durant toute la grossesse, maman est comme mise sur un piédestal, on y fait attention, on la traite aux petits soins, etc. Puis, finalement, la première chose qu'on sait quand bébé est né, ben, souvent, c'est bébé, tu sais. Puis, juste lui, juste elle, puis le maman est, j'ai envie de dire qu'elle prend le bord, là, des fois, là. Fait que, puis, c'est tellement nécessaire de ramener comme, maman, à travers tout ça, dans ce qu'elle, tu sais, ce qu'elle vit, puis moi, ce que j'essaie de nommer beaucoup, mettons, à l'entourage, puis tout, c'est de dire comme, avant, tu sais, quand tu arrives chez une nouvelle maman, avant même de vouloir voir le bébé, peu importe, préoccupe-toi donc de ce que maman vit en ce moment. Tu sais, comment tu vas aujourd'hui? Juste cette petite phrase-là, tu sais. Comment toi tu vas aujourd'hui, tu sais? Ça fait toute la différence. Après ça, on se concentre sur le bébé. Mais comme là, le bébé, là, il peut pas bien aller si maman, elle va pas bien, là. Donc, tu sais, de revenir un petit peu à ça, je pense que c'est comme fondamental, en fait, là. Vraiment.
Oh, juste la petite tape dans le dos, la petite caresse. C'est des petits éléments que ma famille a pu me donner. Un regard qui veut tout dire de ma mère, qui est là, c'est quoi avoir des enfants? Elle me regarde, puis elle interagit, puis que je vois que je me sens comprise, je me sens vue et je me sens valorisée. Ce que j'ai trouvé le plus dur, moi, c'est je valorisais beaucoup d'autres sphères de ma vie. Et finalement, j'ai réalisé que je ne connaissais pas tant la maternité parce que je ne la reconnaissais pas tant. T'sais, pour moi, une femme à la maison, c'était une femme qui ne voulait pas nécessairement avoir de carrière. Tandis que moi, je me suis toujours identifiée comme carriériste. Puis je me suis dit, ah, mais moi, être enfermée dans la maison une journée longue à faire du lavage, je vais mourir, là. Et j'ai trouvé ça difficile au début d'avoir à, premièrement, apprivoiser les nouvelles tâches, parce que mes nouvelles tâches, c'était pas de faire un magazine ou une conférence devant 200 personnes. C'est de changer des couches, avoir des rigurgies, gérer des pleurs, recommencer, faire du lavage, nettoyer, laver le lit 46 fois par jour. Puis je me suis dit, à maner à quatre pattes en train de ramasser du rigurgie, c'est ça ma vie maintenant. Et je suis supposée me sentir valorisée, puis épanouie dans ça. Ça, j'ai trouvé ça dur parce que je ne valorisais moi personnellement pas tant la maternité par mes connaissances, premièrement. Puis deuxièmement, j'ai l'impression que le rôle de la maman dans notre culture, elle est peut-être pas aussi prestigieux que toute la dévotion que les mamans apportent dans ce rôle-là de vie. J'ai clairement vu à ce moment-là un déréglage par rapport au rôle et au rôle de maman dans notre société. Je l'ai vu, puis moi, je suis tombée dans le panneau parce que je l'ai acheté, moi aussi, cette vision-là de la maman qui fait un petit peu rien à la maison, tu sais, mais je me suis dit, oh mon Dieu, à quel point on devrait redonner les lettres de noblesse à la maternité et même à toutes les gens qui travaillent dans le milieu de la maternité. Je pense aux éducatrices, à quel point que allez passer une journée en garderie, puis dites-moi, là, tu sais, si vous êtes une éducatrice dévouée, là, si vraiment ça vaut le salaire minimum, dites-moi ça. Mais encore là, ça me fait réaliser que c'est la même chose pour nos préposés. Tous les métiers qui sont dans le care, dans la relation d'aide bienveillante, on a encore de la difficulté à reconnaître et à valoriser ça, contrairement à quelqu'un dans la construction, dans l'ingénierie ou dans le gouvernement, par exemple. Donc vraiment, on voit que la valeur monétaire va être liée à... On va donner de l'argent et un salaire selon ce qu'on valorise dans notre société. Puis ça m'a fait de la peine de voir que à la base même de notre population, qui est la maternité, l'enfance, on a des carences à apporter. Puis moi-même, je me suis vue. Donc, apprendre à valoriser un rôle que la société ne valorise pas beaucoup, ça aussi, c'est un challenge quand on découvre cette nouvelle identité-là.
Ben tellement, puis t'allumes un petit peu la fibre féministe en moi, là, mais comme à quel point c'est tout ce que tu viens de nommer, souvent c'est des rôles qui sont associés aux femmes, hein, tu sais, le caring, le prendre soin, la maternité, tout simplement, tu sais, ce sont tous des rôles qui sont souvent très, très associés aux femmes. Et évidemment, tu sais, dans notre société, oui, on marche doucement vers l'égalité, mais on n'est clairement pas encore rendu là, tu sais. On a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Puis, en effet, la maternité, en général, c'est très, très banalisé, hein, tu sais, finalement, comme tout le monde, pratiquement, dans notre société, tu sais, c'est un peu comme normal, hein, tu sais, de vouloir à un certain moment des enfants. Puis, tu sais, on le normalise beaucoup, beaucoup, même parfois beaucoup trop, tu sais, dans le sens où finalement, on est comme surpris quand quelqu'un nous dit, tu sais, une femme nous dit, ben moi, j'en veux pas d'enfants, tu sais. C'est comme surprenant, ça passe bizarre, tu sais, dans notre société. Mais c'est ça, on met tellement d'emphase sur, ben c'est comme normal de vouloir des enfants. Puis, tu sais, aussi les fameuses phrases de, ben oui, mais tu le savais en devenant maman que ça allait être ça, ou c'est ou t'as voulu un enfant, ben c'est ce qui vient avec, puis t'sais, etc., etc. Là, on pourrait en nommer jusqu'à demain matin, là, des phrases plates là, comme ça, mais en fait, sais, j'aime bien faire le parallèle. Est-ce que de dire à quelqu'un de stresser, d'arrêter de stresser, ça va être utile? Absolument pas. Tu sais, il n'y a aucune étude qui a prouvé ça jusqu'à maintenant, là,
En fait, ça prouve le contraire. Je l'ai lu, ça prouve le contraire.
OK. Ben voilà, tu sais. Fait que de dire à une maman, ben, il fallait que tu t'y attendes, puis c'est normal, ben, on peut s'attendre aussi à ce que ça prouve le contraire, puis que ça fasse en sorte que, ben, justement, je me sente comme maman encore plus dévalorisée, tu sais, puis encore plus dans un sentiment d'échec. Mais c'est ça, notre société, elle a comme tellement banalisé la maternité, de dire, ben, c'est comme normal. Puis, tu sais, en plus, il y a comme quelques années, on avait 10, 12, 14 enfants. Fait que, tu sais, c'était d'autant plus banalisé, là, tu sais, comme d'avoir des enfants, là, c'était la normale, la chose et tout. Donc, plains-toi pas, tu sais, comme pourquoi tu viendrais te plaindre? T'as pas ce droit-là, tu sais. Puis là, je suis nullement en train de dire que les femmes se plaignent, là, vraiment pas, mais tu sais, c'était très dans ces mots-là qu'on le disait, tu sais, c'était dit comme ça, là. Fait que tu sais, il y a comme une très, très grande banalisation qui vient pas d'hier, là, disons, par rapport à la maternité, puis par rapport à la femme en général, là, on va se le dire. Donc, qui nous suit encore aujourd'hui, malheureusement, par rapport à ça. Puis, en effet, qui fait en sorte que, ben, dans mon rôle de maman, hey, je change de statut socio-économique, là. Vraiment, là. On se rend pas compte, puis souvent, tu sais, comme, on parle avec des hommes, tu sais, puis il n'avait même pas compris avant d'être papa, là, avant de voir, mettons, comme les différences avec justement la femme qui, ben, va perdre une part de son salaire, va, tu sais, avec le congé de maternité, etc. Ben, souvent les hommes, tu sais, là, je généralise un petit peu, mais ils vont se rendre compte de ça à ce moment-là, tu sais. Fait qu'avant, ils n'avaient jamais réfléchi à ça, tu sais. Au fait que, ben, maman, elle n'aura plus le même statut socio-économique. Puis ça, c'est super difficile, là, à intégrer, là, comme personne, là, comme être humain, là, de faire comme, ben justement, tu sais, en plus de tous les bouleversements, socialement, là, je suis même plus perçue de la même façon. T'sais. Fait qu'il y a comme quelque chose là qui est énorme, là, franchement, là.
Oui, puis on dirait dans tout ce que tu me dis, il y a quelque chose qui m'a donné des frissons, c'est on s'attend à ce que tu encaisses toutes les difficultés. T'sais, on s'attend à ce que tu sois épanouie, que tu aimes ça accoucher, hein, puis que la souffrance, tu l'encaisses bien, puis que tu chiales pas trop, hein, tu cries pas trop non plus, hein, parce que ça fait
Ben
mal aux oreilles. C'est pas le fun, t'sais, quand tu cries à accoucher avec, s'il te plaît, le plus possible en silence. T'sais. Puis ah, oh, ben après, là, quand tu as le postpartum, là, puis ben, on espère que tu guéris vite, puis tu te remets vite sur pied, hein, parce qu'il y a de la vaisselle, puis il y a de la bouffe, puis il y a des tâches qui t'attendent, tu sais. Puis quand que papa va pouvoir retourner travailler, ben, on espère que tu vas être épanouie et reconnaissante de pouvoir cuisiner des repas chaque jour et de faire le ménage. Puis moi, c'est ça qui me fait de la peine, c'est que j'ai réalisé que les tâches de la maternité, pas passer du temps avec mon enfant, mais les tâches ménagères, et tout ce qui s'entourait autour de la maternité ne m'épanouissait pas. Je peux pas dire, puis ça m'a pris du temps de me l'avouer, mais je ne suis pas épanouie à faire une brassée de lavage, de rigurgie. Genre, j'ai pas le plaisir de me pencher à quatre pattes, ramasser encore la bouffe que ma fille a pitchée parce qu'on fait de la DME. Tu sais, j'ai pas encore le lundi matin excité de commencer ma semaine, sachant que ben, des fois je trouve ça long, puis des fois je trouve ça exigeant. Puis on a de la difficulté à se l'avouer, surtout moi j'ai vu une maman à la maison épanouie fois mille. Là. Tu sais, ma mère, c'était excitée, était heureuse. Puis oui, elle avait des difficultés, là, mais elle a adoré ça, tu sais, être maman dans toutes les facettes. Puis moi, je me suis dit, je ne suis pas une bonne maman, j'aime pas ça. Puis même mon propre conjoint me dit, dans toute sa bienveillance, me dit, ah, je m'attendais à ce que t'aurais voulu après rester à la maison, tu sais, t'aurais pas voulu revenir sur le marché du travail, tu sais. Et là, moi, tout de suite, je me suis dit, je n'atteins pas ses attentes. Ça y est, je suis pas une bonne mère, tu sais, là, ça s'est tout activé. Puis je serais temps qu'il réalise, qu'on en reparle, puis qu'il me dise, ben non, ça n'a pas rapport. Il dit, c'est juste, je m'aurais attendu que tu me dises, finalement, je veux plus travailler, puis je veux rester à la maison. Puis je me suis dit, oh, non, c'est le contraire, mais encore là, l'amour de soi, de se dire, ben, qu'est-ce qui, moi, me rend vivante, puis qu'est-ce que j'ai de besoin? Et moi, le moment clé, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai de besoin pour profiter de la maternité? Et en discussion avec mon conjoint, c'était peut-être un peu plus de support par rapport aux tâches ménagères et tout ça, qu'il ne voulait pas faire. Donc, on a engagé quelqu'un, il paye, parfait, on a acheté la paix. Mais à ce moment-là, ça me dit, OK, ben moi, si je peux me retirer ou déléguer telle tâche, je sens que je vais plus pouvoir profiter de la maternité. Donc, de créer nos propres standards au-delà des attentes des autres, puis nos propres attentes, parce que même moi, je m'attendais à adorer ça, puis je me mettais la pression d'adorer ça, puis me dire, ben non, ça se peut que ma fille commence à la garderie à 7 mois, puis ça se peut aussi que j'avais besoin de temps pour travailler, puis me remettre plus active. Puis à ce moment-là, c'est de me dire, OK, ben quelles sont les composantes qui vont faire en sorte que moi, je vais pouvoir m'épanouir en tant que femme à travers la maternité. Ce que je trouve tellement important, de se donner le droit de valider nos besoins, puis de mettre en branle des changements pour pouvoir construire un écosystème qui nourrit nos besoins puis qui nous permet finalement d'être une maman épanouie.
Tellement. Puis Charline, je vais faire un retour sur ce que tu disais en début d'épisode, OK? Mais tu sais, tu me dis, ben quand mon bébé est né, je me suis rendu compte à quel point je suis devenue, je le mets dans mes mots, mais un peu maman ours, là, tu sais, de dire comme, hey, je... C'est-tu quoi, il y a comme une espèce de colère qui est comme arrivée, puis comme... Puis tu sais, moi, cette colère-là, en fait, ben en effet, tu sais, comme il y a une forme de colère. Pour moi, par exemple, c'est très, très clair qu'en fait, c'est devenu une mise de limite beaucoup plus claire, qui était peut-être moins là avant. Puis ça amène beaucoup ça, souvent, à la matrescence, ça, par rapport à la mise de limite qui devient comme... Avant, peut-être que j'étais comme vraiment smooth sur ma mise de limite, je vais le dire comme ça, j'étais plus relax, mettons, j'en mettais moins, c'était moins que, comme quelque chose qui était comme intense pour moi. Et puis souvent avec la matrescence, ça arrive, ça, ce concept de mettre des limites très, très fort, très, très demandant. Mais encore là, souvent, ça se passe autour de mon bébé. Puis très peu par rapport à mes limites à moi. Tu sais, en tant que maman. Donc, tu sais, mettons, si je peux donner un message aujourd'hui, là, c'est aussi comme les mamans, pensez à vos limites, à vous. Parce que oui, ton bébé, il en a, puis oui, tu en as par rapport à ton bébé, mais tu en as aussi toi, tu sais, comme être humain, là. Fait que, tu sais, il y a comme tout ce concept-là qui s'ouvre, puis justement, prenons l'occasion, tu sais, prenons la balle au bon de dire. Hey, sais-tu quoi? Je les assume beaucoup plus, mes limites, aujourd'hui. Fait que je vais les mettre pour moi aussi, tu sais. Je pense que c'est comme, il y a vraiment ça à attraper qui est le fun de la matrescence, là.
Ouais, oh, j'aime tellement ça que tu dis ça parce que c'est vrai. Ça demande tellement de courage. Tu sais, juste exemple, quand mon chum me dit ah, ça, je m'attendais à ce que tu sois épanouie là-dedans, tu sais, puis que tu veux rester à la maison. Moi, je l'ai encaissé, j'ai rien dit, là. Je l'ai encaissé, j'avais de la peine. Puis là, il est parti travailler, j'étais à l'envers parce que je me sentais vraiment, là, j'avais déçu son idéal parce que lui aussi, il vient d'une famille de 4 enfants, puis lui aussi, sa mère était à la maison. Puis là, je me suis dit, ça y est, moi, je suis pas à la hauteur de ça, tu sais. Et là, finalement, en reparlant avec lui, mais juste pour vouloir en parler avec lui, ça demande une dose de courage. Mais la colère, l'agressivité, justement, cette énergie-là qui monte, est nécessaire, les émotions qu'on vit puis depuis le jour 1, parce que je me rappelle, juste au début de ma grossesse, j'avais tellement d'émotions, j'étais tellement sensible que tous les millimètres qui s'éloignaient un petit peu de ma ligne alignée bien dans mon couple, j'étais obligée de les adresser parce que c'était immense l'impact que ça avait sur moi. Et ça m'a permis de cette hypersensibilité-là, de tout corriger au fur et à mesure. Et j'ai rien pu laisser traîner. Et ça a été un cadeau aussi parce qu'à l'accouchement, là, j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui est parlable, mais on a eu un process assez rapide en début de relation, ce qui a fait qu'on avait à bâtir une relation, un couple, pendant qu'on bâtissait aussi la parentalité puis notre famille, donc tout en même temps, ce qui fait que les discussions, il y en avait beaucoup au pied carré. Et ben, par chance, j'étais tellement hypersensible, je ne pouvais rien laisser passer. Et ça faisait que je devais tout adresser, mais pour adresser une conversation qui est challengeante, il te faut du courage pour être vulnérable, il te faut de la force, puis il faut aussi parfois peut-être une émotion plus forte pour nous aider. Puis moi, j'aime voir les émotions comme étant des vecteurs de courage pour nous exprimer, pour nous révéler. Et ce que tu dis là, ça me fait sourire parce que oui, vraiment, si on... Un peu comme la perception du stress dans le dernier épisode, si on change notre perception des émotions, puis de notre sensibilité ou même notre agressivité, puis qu'on swing dessus, hein, qu'on se donne un élan, puis qu'on en profite parce qu'ils ont une utilité, ces émotions-là. Ils nous amènent à une destination, ils nous aident à être bien et à nous exprimer pour construire vraiment une dynamique familiale qui nous est saine et épanouissante. Donc, j'adore que tu dises vraiment, Mama Bear a une raison d'être. Ça va peut-être nous donner le courage d'établir justement cette nouvelle construction-là familiale qui est en train de se tisser. Vraiment, j'adore.
Ouais, puis ben c'est comme c'est un tremplin là, tu sais, prenons-le là, ce tremplin là, il est tellement intéressant là. Puis j'aime beaucoup que tu parles, tu sais, de dynamique de couple parce que comme ça ben c'est quelque chose qui arrive là dans la matrescence, à quel point comme toute cette dynamique-là aussi, mon couple, il change, là. Tu sais, on n'est plus un couple à part entière. On est aussi maintenant des parents. Puis, parfois, comme cette équipe parentale-là va prendre beaucoup, beaucoup de place et laisser moins de place au couple. Ce qui est normal au début, là. Tu sais, comme, faut se le dire, là. Tu sais, puis je veux dire, jamais j'aurais la prétention de dire à un couple, ben là, je pense qu'il faudrait que vous preniez 3 jours par semaine, à toutes les semaines, tu sais, comme maintenant pour penser à votre couple, tu sais, c'est absolument pas ça parce que c'est juste comme impossible, tu sais. Mais je pense qu'il y a comme clairement quelque chose à faire là-dedans puis qu'il faut jaser parce que, et que ça peut être difficile sur une dynamique de couple, là, devenir parent, là. Vraiment, là, tu sais, puis aussi sur nos attentes, nos perceptions de chacun, tu sais, de notre rôle parental. Ça, parfois, on a un petit peu de difficulté à aborder ces discussions-là qui sont pourtant tellement, tellement importantes, puis vraiment significatives. Puis, tu sais, comme, on verra si on l'aborde, mais aussi, tu sais, tout le côté de la sexualité, tu sais, comme, veut, veut pas, ça entre en ligne de compte, là. Un postpartum, c'est différent là, dans la sexualité d'un couple. Là. T'sais, ça amène beaucoup de changements, puis ça amène encore une fois une grosse remise en question en tant que femme, souvent, surtout si on a un partenaire ou une partenaire qui est comme pour qui c'est plus difficile, ça amène comme toute une remise en question de ben, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que t'sais, comme c'est correct ce que je fais? Puis ça peut vraiment venir aussi détruire mon estime personnelle, t'sais, si finalement mon ma partenaire. Fait en sorte de me faire sentir coupable un peu par rapport à ça, tu sais. Fait que, tu sais, il y a comme beaucoup, beaucoup de choses là-dedans, là, mais c'est grand, là.
C'est vrai que tu sais, la sexualité, sentir désirable, tout change. Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'ai trouvé ça difficile à la fin de ma grossesse d'être autant enceinte aussi longtemps. Je me suis dit, tu sais, je me trouvais belle, je me trouvais belle, mais dans une sainte vierge belle, tu sais, pas sexualisée, disons. Puis à un moment donné, je trouvais que ça pesait parce qu'il y a un moment où est-ce que mon partenaire était comme, ouais, là, je vois mon bébé, je suis pas du tout à l'aise. Genre, on dirait que je vois que mon bébé est rendu grand puis qu'il est là, puis genre, c'est ma limite, tu sais. Puis moi, j'avais les hormones de grossesse encore dans le tapis et j'étais comme, tu peux pas me laisser comme ça, c'est horrible, c'est de la torture. Mais bon, bref, là, ça, c'est tous les déséquilibres des hormones et tout ça en ligne de compte. Mais moi, j'ai trouvé ça difficile, hein, de perdre la sphère, c'est la femme enceinte vénérée et Sainte Marie qui perd un petit peu la sphère sexualisée. Et le après aussi, moi, j'ai eu la chance de guérir assez vite. Puis tout à ce moment-là, on dirait que l'espace-temps est tellement mélangé, tellement dilaté, parce que ça faisait seulement 10 jours, je pense, que j'avais accouché. Puis moi, je me sentais prête à recommencer les relations sexuelles, puis j'avais tellement hâte, j'étais tellement excitée, puis j'avais dit à mon conjoint, tu sais, toi, est-ce que ça a changé ta perception? Moi, j'avais peur que l'accouchement, parce qu'il assistait à l'accouchement, ait changé sa perception, tout ça. Puis lui qui me dit, bien honnêtement, il dit, je pense j'aime mieux attendre encore, tu sais, que ton corps guérisse. Je pense que tu comprends pas, tu sais, tout ce qui s'est passé, tu sais, que t'es encore sur l'adrénaline. Et là, moi, j'avais trouvé ça dur à encaisser parce que j'étais comme, ça y est, je suis plus désirable. Ça y est, tu sais, il veut plus, tu sais. La fameuse perception qui a été modifiée de moi. Et encore là, ça joue dans la matrescence, mais ça joue aussi dans la patrescence, de lui dire, eh hey, ben, il va peut-être devoir prendre tout son courage pour me dire, pas tout de suite, tu sais. Puis je me rappelle, j'avais pleuré, là. J'avais aussi toutes les hormones dans le tapis qui me disaient que non, ça y est, plus jamais on va faire l'amour. C'était dramatique, mon affaire. Puis finalement, une semaine ou 2 semaines après, on avait retrouvé tranquillement notre sensualité, pas nécessairement la sexualité, mais la sensualité qui était rebâtie, tout ça. Puis on a repris notre envol. Mais je me rappelle à quel point que, autant moi que lui, T'sais, on parle souvent du côté des femmes, mais autant lui a dû à s'exprimer puis à dire comme ben à un tel niveau de grossesse. T'sais, je me rappelle à Saint-Valentin, il me dit ça va être la dernière fois, mon amour, parce qu'il dit là, je me sens plus bien. T'sais. Et là, l'impact, mais j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il soit capable de le dire. C'est pas facile à dire, là. Et de tous nos changements, oui, dans notre corps, puis l'adaptation que ça a sur notre conjoint, ça fait partie du couple qui devient parent. Et qui demande une communication extraordinaire et de l'adaptation ensemble. Parce qu'on a commencé le podcast en disant l'adaptation en tant que maman, mais il y a aussi l'adaptation en tant que papa et dans cette nouvelle dynamique-là. Justement, est-ce que tu veux nous ouvrir une parenthèse sur le concept de la patrescence?
Oui, absolument. C'est sûr que, tu sais, mettons, au niveau de la patrescence, là, c'est un mot qu'on n'entend vraiment pas aussi souvent que matrescence, là, tu sais, fait que je vous laisse imaginer à quel point on en parle très, très, très peu, là. Mais, tu sais, le concept est pas mal le même, là, en soi, fait que, tu sais, adolescence, paternité, etc. Sauf que, tu sais, qu'il faut dire, par exemple, par rapport à la patrescence, c'est que ça fait vraiment pas si longtemps. Écoute, Charlène, c'est en 2006 au Québec que les pères ont eu droit à un congé de paternité. OK, pour la première fois. En 2006, ça fait pas 20 ans. Tu sais? Fait que moi, ça m'avait complètement subjuguée quand j'avais vu ça, là. Vraiment, là, ça m'avait... Je comprenais pas. Mais c'est ça, tu sais. En 2006, ils ont eu droit à leur première fois de congé de paternité. Fait que, tu sais, ça nous montre à quel point le papa n'est pas reconnu comme étant une part entière, tu sais, de la vie de son enfant, tu sais, comme vraiment, puis une personne importante. Évidemment, on a fait des progrès là, depuis 2006, là. Mais ça nous montre à quel point il y a quand même encore beaucoup de chemin à faire par rapport à... Justement, un papa qui a le droit d'être sensible, un papa qui a le droit de vouloir s'impliquer dans la vie de son enfant, un papa qui a le droit de communiquer aussi ses besoins avec sa partenaire. Puis, tu sais, aussi, on le banalise beaucoup, mais un papa, justement, tu sais, comme ton partenaire qui a dit « Hey, sais-tu, Charline, en ce moment, c'est trop pour moi, tu sais. » Puis qui pourtant, hey, tu sais, comme dans notre... ben pas visuellement, mais comme plutôt, tu sais, comme intégré dans notre société que les hommes, la sexualité, c'est tout le temps, tu sais, fait qu'il y a comme une espèce d'hypersexualisation, tu sais, qui est là, alors que, ben non, les hommes aussi ont le droit d'avoir des limites, tu sais, fait que, puis la différence de désir entre hommes et femmes, ben elle est pas extrême, là, tu sais, je veux dire, il y a aussi des hommes qui ont des désirs peut-être moins grands, ou tu sais, qui, justement, ont des limites, tout simplement, tu sais. Fait que, mais ça, on commence à l'écouter de plus en plus, mais reste que c'est encore un sujet qui est très, très tabou, tu sais, par rapport à toute la place que le père va prendre dans sa paternité, dans la famille, tu sais. C'est sûr que, comme je disais, t'sais, comme par rapport à la patrescence, il y a un côté que la patrescence aura moins, c'est-à-dire comme tout le côté biologique que maman, elle, est là, tu sais, avec le lien qu'elle a eu le bébé, tu sais, je veux dire qu'elle a été enceinte, qu'elle a accouché, etc. Ben ça, c'est sûr que papa n'a pas nécessairement eu le même processus dans son corps, là, OK, on s'entend là-dessus. Mais au niveau social, au niveau psychologique, ben les conséquences, les choses qui ont changé sont assez semblables. Fait que, tu sais, il y a quand même, oui, un changement d'identité chez papa aussi. Vraiment, tu sais, puis on s'en rend peu compte. C'est très banalisé, là, très tabou aussi là, dans notre société. Là.
C'est intéressant parce que ce que j'ai dit au début, l'importance de moi me dire que je suis une bonne maman, ben, de le dire aussi à mon conjoint parce que oui, peut-être que on vient d'une génération où nous, on était très traditionnels dans nos familles respectives. Là, donc, maman prenait toute la place. C'était la maman. C'était la maman italienne qui s'occupe de tout, qui gère tout. Papa, c'est le pourvoyeur. T'sais, c'était pas mal dans les deux familles, ce qu'on avait vu, puis on a expérimenté. Mais là, c'est de détacher de ce qu'on a expérimenté, puis c'est-à-dire de quelle façon, quelle nouvelle dynamique on veut instaurer dans notre vie, dans notre vie de famille, dans notre couple aussi. Puis comment est-ce qu'on peut réajuster, sachant que moi, il y a une nouvelle variable, je veux pas rester à la maison, j'ai envie de travailler. Comment est-ce qu'on peut s'équilibrer aussi les tâches, trouver un équilibre ensemble pour pouvoir être bien dans notre dynamique à nous actuellement. Et ça, j'ai trouvé ça beau parce que autant la patrescence que de le valoriser dans la place qu'il prend. Et là, sachant que moi, j'avais envie de lui laisser une plus grande place que peut-être que nous, on avait eu comme modèle paternel, dire, OK, ben, je vais te laisser prendre une plus grande place par rapport à l'éducation de notre fille. Tu sais, je reste là, tout le temps disponible la majorité du temps, mais tu sais, quand je vais travailler, je travaille de la maison, en ligne, j'ai besoin que tu m'aides un peu plus, puis peut-être que ma mère vienne nous aider un petit peu plus, puis qu'on engage peut-être un peu plus d'aide extérieure pour l'entretien de la maison, etc. Mais de voir que, en lui demandant de prendre une plus grande place, ça m'a aussi challengée sur le fait qu'il s'occupe de ma fille de façon différente de moi. Tu sais, moi, je suis dans la douceur, veloutée, cachemire, écoute, elle sort du bain, sa couverte chauffante est déjà prête, sortie de la sécheuse, je l'enrobe, je mets le séchoir à côté, par-dessus sa séchoir, sa serviette pour qu'elle soit au chaud, je la crème, je la masse, je donne des bisous. Seulement quand elle est très sèche, sèche et chaude, là, je mets sa couche, puis je me dépêche à l'habiller, puis on se donne des câlins, tout ça. Mon chum, quand il sort de la douche, premièrement, c'est pas un bain parce qu'il aime pas ça, il sort de la douche comme si c'était un poulet mouillé, là, puis il enrobe dans la serviette, à pleurer un peu, puis ben oui, c'est pas grave, ma fille, on achève, j'ai bientôt fini, je sais que c'est pas le fun. Et là, je me suis dit, moi, quand j'ai vu ça, j'avais envie de lui dire non, 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 voici comment moi, je voudrais qu'on s'occupe de ma fille. Mais dans le concept de la patrescence, dans la construction de son identité de papa, c'est aussi de laisser papa être papa à sa façon, même si c'est pas la même que moi. C'est toujours dans mes limites de sécurité, ce qui est tolérable ou pas. Mais sinon, c'est de dire, OK, bon, mais je te laisse. Tu sais, je vais peut-être être plus lousse sur aussi ce qu'il donne à manger à ma fille, parce que moi, j'étais plus stricte sur ce qui est santé, disons. Puis je l'ai vu donner un bout de Nutella sur un bout de cuillère, puis je dis, oh mon Dieu, jamais j'aurais fait ça, moi. Mais c'est de dire, OK, ben là, on va établir encore sur une base de communication. On est en train de créer ce qui est une maman, ce qui est un papa pour nous. Donc, d'en discuter. Puis on dirait que le point de ralliement de tout le concept de matrescence et de patrescence au sein d'un couple qui devient parent, c'est cette communication-là, puis je mets l'emphase sur communier, arriver à travers nos différences, à travers nos différences de perception, d'attente, de préférence, est-ce qu'on peut arriver à un terrain commun où est-ce qu'on va établir les propres fondements de notre famille à nous en respectant les désirs et les besoins de chacun du mieux qu'on peut finalement? Ça, je trouve que la patrescence et la matrescence nous amènent pour que l'amour du couple continue à s'émerveiller et s'épanouir dans une grande dimension qui est la parentalité. Ben, pour ne pas se perdre, comment est-ce qu'on peut faire pour communier en sachant que tes besoins sont importants, les miens aussi? Comment est-ce qu'on peut créer une entente pour les respecter chacun? J'ai l'impression que c'est une belle porte qui s'ouvre d'évolution pour les couples.
Ouais, puis tu l'as super bien nommé, là, la communication, c'est la base, tu sais. Fait que, puis tu sais, je pense que aussi en tant que maman, en tant que papa, tu as le droit de le nommer. Hey, sais-tu quoi? Moi, je le fais comme ça. Je comprends comme que toi, tu le fais comme ça, puis c'est correct. Je vais juste te montrer ma façon. Si tu l'apprécies, tu apprendras. Si tu l'apprécies pas, c'est pas grave, tu sais. Il y a toujours une façon de nommer nos choses aussi, tu sais. Fait que sans être blessant, sans être... Tu sais, juste d'ouvrir la discussion, puis toujours d'être dans une ambiance de curiosité, je vais le dire comme ça, plus que de jugement, tu sais. Fait que de vraiment, tu sais, d'ouvrir ça, mais la communication en tant que parent, c'est la base, tu sais, en effet. Puis la communication par rapport à notre bébé, par rapport à aussi, tu sais, comme tout le reste, là, fait que par rapport à notre couple, par rapport au temps qu'on prend pour nous, par rapport à notre famille, puis t'as nommé quelque chose aussi, Charlène, tu sais, là, de dire que, ben, moi, je veux reprendre le travail, fait que... ben, il va falloir peut-être que je demande plus à ma mère, il va falloir, tu sais, la matrescence, c'est aussi de se construire un village. Ça, on l'a comme tellement perdu, là, malheureusement, mais c'est de se construire un village vraiment autour de nous pour répondre à nos besoins, puis de le dire qu'on en a des besoins, puis c'est normal, c'est correct, on a le droit. On n'est pas obligé de tout faire toute seule, puis de répondre à tous nos besoins seuls, tu sais. Pas possible. L'être humain n'est pas fait comme ça. C'est un être social qui a besoin de relations sociales et qui a besoin de s'aider, tu sais, de s'entraider. Fait que le village est tellement, tellement important. Puis j'ai envie de dire que le village va très certainement changer aussi avec la matrescence. Puis ça peut être difficile. Parce que Ah, ben, ça se peut que j'aie des amis qui n'aient pas d'enfants et que, hop, je m'éloigne un petit peu de ces amis-là. Ça se peut que j'aie des amis qui aient des enfants, mais que, justement, tu sais, comme on n'est pas nécessairement aux mêmes endroits, puis ça fait en sorte que, bon, mais ça crée certaines tensions, ça crée certains clashs entre nous deux, puis finalement, tu sais, comme on est comme moins là-dedans. Ça se peut qu'il y ait certains membres de ma famille, justement, qui prennent plus de place qu'en prenaient avant, parce qu'ils viennent plus nous aider. Ça se peut qu'il y en a qui en prennent moins. Tout notre système aussi de tradition va changer peut-être. Tu sais, comme ça se peut que ça faisait des années que je n'étais pas allée, j'ai un exemple au hasard, mais tu sais, je n'étais pas allée aux pommes. Puis là, ben, avec l'arrivée d'un enfant, hey, ça devient une tradition un peu plus magique, tu sais, ou tu sais, comme Noël, quand il y a des enfants versus quand il n'y en a pas, il y a aussi une certaine magie qui est différente, tu sais. Fait qu'il y a comme tout ça qui se met en place à travers ce processus-là qui est beau à voir, mais qui change puis qui parfois peut faire mal, tu sais, quand même aussi, là, de voir ces changements-là puis cette évolution-là. On peut se demander comme, tu sais, comme, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui est pas normal? C'est moi qui change? Pourquoi, comme cette amie-là s'est éloignée? Ou pourquoi ça répond plus à mes besoins? Mais ça se peut, ça répond plus à tes besoins, tu sais, cette relation-là. Puis c'est correct.
Oh mon Dieu, ce que tu dis, ça me fait vivre plein de choses parce que, premièrement, depuis que j'ai su que j'étais enceinte, je me suis entourée de. Ben, les mamans sont venues naturellement à moi et dans une compassion, une compréhension, une empathie que c'était tellement riche que naturellement, toute mon énergie allait. Mon énergie sociale, qui était très peu en passant, mais le peu d'énergie sociale qui me restait était en lien avec les mamans. Parce que j'ai senti, je me suis jamais sentie autant comprise. J'ai toujours eu beaucoup d'amis avec une sororité extraordinaire entre femmes, vraiment. Je suis chanceuse, je suis bénie. Mais avec les mamans, il y a une coche de plus où est-ce que j'ai l'impression qu'ils me comprennent, qu'ils me ressentent, ils me donnent leurs trucs, leurs conseils. Il y a une solidarité dans la maternité que moi, je n'ai jamais goûtée avant. Et j'en ai fait là, des camps de basket plein de filles ensemble, tu sais, on est une équipe de filles, puis tout ça. Mais dans la maternité, c'est un autre niveau de compassion. Les femmes, les mamans m'ont aidé à avoir de la compassion et de la bienveillance en étant juste elles-mêmes amour avec moi. Ils m'ont montré comment aimer la nouvelle personne que je devenais en étant elles-mêmes en amour avec la personne que je devenais. Il y a une solidarité. Puis naturellement, on a plusieurs gangs d'amis, mais dans nos gangs d'amis ou ceux qui avaient des enfants, tu sais, on était plus portés à accepter leur invitation de barbecue parce que le mode de vie, tu sais, on savait que les enfants allaient se coucher vers 6h45, 7h, fait que c'était peut-être pas le temps de mettre le karaoké à tue-tête, puis tu sais, de dire, hey, si vous voulez venir à la maison souper, on a un parc pour Clara. Oh mon Dieu, c'est incroyable l'apaisement parce que ça nous permet, nous aussi, de sortir dans un contexte qui va accueillir notre fille parce que maintenant, on est à trois. Puis c'est sûr que des fois, on peut faire des exceptions puis se présenter dans des soirées qui sont pas nécessairement baby-friendly, disons. Mais sachant que si cette année, ma fille est plus bien, moi, je suis plus bien, là. Je pourrais pas être dans un environnement que ma fille est pas bien puis qu'elle pleure. Donc, évidemment, ben, ça limite un petit peu les soirées sociales qu'on pouvait avoir dans le passé. Et ça nous attire avec une gravité tellement dans l'aisance, la simplicité, vers un mode de vie qui soutient l'arrivée d'un membre de la famille. Donc ça, je trouve ça important parce que oui, ça amène pas des deuils relationnels, mais encore là, des changements. On perd pas nos amis, ils changent peut-être juste la forme, la place qu'ils ont. Puis il y en a qui vont s'adapter aussi qui veulent pas d'enfants, mais qui s'adaptent très bien à l'arrivée d'un enfant. Puis ça, c'est parfait. Mais il y a parfois que ça nous amène aussi à avoir des changements au niveau de notre entourage. Puis oui, ça fait des vagues une autre vague de plus de changements à traverser.
Puis tu sais, t'as nommé des fois, tu sais, comme moi, j'ai envie de le dire que oui, parfois il peut y en avoir des deuils. Franchement, tu sais, comme ça se peut qu'on traverse une phase de deuil, puis plein de petits deuils. Tu sais, le deuil, c'est pas juste la mort d'une personne, hein, tu sais, des fois, c'est aussi de juste comme faire le deuil que ça ne reviendra pas comme avant. Il y a des choses qui ne se passeront plus comme avant, même si j'aimais ça. Puis ça, tu sais, le deuil, en fait, c'est aussi, c'est pas une question de je perds uniquement une chose, tu sais, dans le sens où je peux gagner quelque chose aussi dans le deuil, là. Fait que c'est pas que négatif, c'est pas que difficile, le deuil. Puis, habituellement, le deuil, la tristesse, mettons, par rapport au deuil, va être proportionnelle à la joie qu'il y a eu aussi avant, tu sais.
Oh, wow!
T'sais,
Oh,
on...
wow!
Mais un deuil, c'est... On fait pas un deuil parce qu'on n'aimait pas ça. On fait un deuil parce qu'on a aimé ça, tu sais.
Oh, wow! Je vais pleurer.
Aimé.
C'est vraiment beau.
Mais
Oh,
c'est
wow!
tellement important à comme comprendre, tu sais, ça. Parce que finalement, tu sais, on se rend compte que ben, c'est correct, mais la vie change, puis on a le droit de faire ces deuils-là, puis ils ont le droit d'être doux, tu sais, c'est pas obligé d'être difficile, puis d'être souffrant, un deuil-là. Je
Oh my
te laisse
God, oui.
continuer.
Ça me touche vraiment parce que j'ai eu le deuil de ma relation précédente. Puis de dire que l'intensité de mon deuil était reliée à l'intensité de la joie que j'ai vécue, puis la reconnaissance que j'ai. Wow! Dernièrement aussi, j'ai eu la chance de vivre l'aide médicale à mourir pour mon grand-père. Et ça fait partie du deuil. Puis je me suis dit, pourquoi c'est si dur un deuil? Ah, qu'est-ce que je résiste en moi? Puis je me suis rendu compte que j'avais une facilité à accueillir la nouveauté, mais une difficulté à quitter pour rentrer dans une nouvelle nouveauté. Je me suis dit, OK, j'observe ma relation avec la mort, parce que la mort, ce n'est pas l'opposé de la vie, hein. La naissance, c'est l'opposé de la mort, mais la vie, c'est la naissance et la mort ensemble, hein, comme le jour et la nuit qui fait partie de notre quotidien. Je me suis dit, est-ce que je peux apprivoiser cette notion-là de deuil, finalement. Puis là, tu vois, tu me la ramènes, t'as capté ma subtilité à fuir le deuil amical. Comme non, non, on va rester amis, ça va juste changer de forme. Mais oui, puis pense comme mot de la fin, de valoriser le deuil et nous permettre de vivre le deuil de la femme qu'on était avant et de ce qu'on connaissait d'avant, va peut-être nous permettre de nous ouvrir à la nouvelle, nou aux nouvelles possibilités de vivre dans la maternité, dans la matrescence, dans la patrescence, dans le couple qui devient aussi des parents et dans la nouvelle vie, le nouveau village qui se tisse. Vraiment, je trouve que le mot deuil, pour terminer, ça boucle tellement bien. En fait, ça boucle, mais en même temps, ça nous ouvre à une nouvelle aventure qui est naviguer à travers le deuil d'une façon positive aussi.
Absolument. À travers une nouvelle aventure, à travers une nouvelle expérience, tu sais, qui finalement le suit,
Wow.
là. Ouais.
Je sens que je vais réécouter l'épisode puis je vais me laisser baigner dans cette tellement belle ouverture. Et là, le temps file, je t'aurais parlé encore 3 heures. OK, on va faire un wrap-up puis je vais te demander,
Oui.
Vanessa, pour ceux et celles qui veulent rentrer dans ton univers, qu'est-ce que tu nous offres et quelles sont les possibilités de continuer ou de débuter cette aventure-là avec toi?
Ouais, en fait, vous pouvez me trouver soit sur Facebook, c'est Vanessa BC, si je me trompe pas, travailleuse sociale. Écoute, je le nomme souvent, hein. Autrement, vous pouvez aussi, je suis quand même active sur Instagram, donc c'est TATS en périnate. Que vous pouvez me trouver sur. J'en ai moi aussi un podcast, en fait, là. Je travaille beaucoup, beaucoup en termes de deuil périnatal. Donc, je travaille, c'est ça, beaucoup, beaucoup là-dedans dans ma pratique. Et puis, j'anime un podcast qui s'appelle Accroche-toi à mon bébé, qui aborde, en fait, toutes les histoires de soit de deuil périnatal, d'infertilité ou même d'accouchement qui ont été traumatiques ou difficiles. Donc, on aborde un petit peu tous ces sujets-là. Puis, c'est tous des sujets que j'aborde aussi là, dans ma pratique, là. Donc, tu sais, je pense que Charline, dans les détails de l'épisode, tu vas pouvoir laisser comme mon site web. Fait que si vous
Oui.
pouvez comme aller voir sur mon site web, là, tout ce que j'offre en lien avec ça, là, mais c'est principalement ça. J'offre également, là, c'est tout nouveau, une école pour les doulas, donc pour les accompagnantes à la naissance en lien avec, en fait, la matrescence, le deuil périnatal, les difficultés en lien avec la maternité en général, là, c'est vraiment mon créneau. Donc voilà, c'est un petit peu ça sur comment on peut me joindre, puis pour les raisons, là, ça m'a tellement fait plaisir de discuter avec vous aujourd'hui, avec toi, puis avec toutes les femmes qui auront envie de juste se connecter à cet épisode-là.
Oh, je me sens remplie vraiment. Donc, ça m'a énergisée malgré que ma fille s'est réveillée à 4 heures ce matin. Je me sens énergisée pour le reste de la journée, vraiment. Merci infiniment, Vanessa. Puis oui, tous les liens pour découvrir ton univers vont être dans la description du podcast. Si vous avez des questions aussi, des commentaires, vous pouvez maintenant sur Spotify ou Apple Podcasts, vous laissez des commentaires sous l'épisode. N'hésitez pas à le faire, ou même sur Instagram. Moi, je les transfère toujours à mes invités. Des fois, c'est des beaux commentaires, des fois, c'est des questions. Donc, vous allez avoir la chance de pouvoir communiquer avec Vanessa. Et je vous rappelle aussi qu'il y a le groupe Facebook Maman Sereine. Si vous voulez écrire des questions, ça va me faire plaisir de pouvoir interagir avec vous et peut-être même lancer la balle à Vanessa si elle veut compléter ou offrir des services un peu plus alignés à les besoins que vous allez mentionner. Mais vraiment, c'est une porte qui s'ouvre, hein, et j'espère vraiment que la matrescence va être une aventure qui va être adoucie et vécue dans l'intensité et la sérénité grâce à nos épisodes de podcast comme celui-ci qu'on vient de faire. Merci infiniment, Vanessa.
Ça me fait tellement plaisir. Merci à toi.
Merci d'avoir été avec nous. Si t'as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager à tes amis ou même dans tes stories en identifiant mouvement épanouissement pour que je puisse te remercier personnellement. Si tu veux nous donner de l'amour, ça se fait en activant le 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou sur toute autre plateforme de balado-diffusion. Tu peux aussi nous écrire, envoyer des commentaires, ça nous fait plaisir de pouvoir vous lire, interagir avec vous. Et finalement, si tu veux aller plus loin, découvrir nos ateliers et nos services de consultation privée, tu peux visiter notre boutique au www.mouvementépanouissement.com/boutique. Avec joie, amour et sérénité, Charlène, alias Maman Sereine.